vous invite à prendre la Bible. Nous allons continuer à écouter la lettre aux Galates et ce que Dieu a à nous dire ce matin. Je suis perplexe par un phénomène que j'observe parmi les chrétiens. Ce sont des chrétiens, je suis chrétien aussi, nous, qui parfois nous commençons à vivre notre vie chrétienne pour quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. Commençons à faire plaisir principalement à quelqu'un d'autre que Jésus-Christ. C'est extraordinaire. Parce qu'à la base, nous avons une relation avec Dieu, notre Père, grâce à l'Esprit à travers Jésus-Christ. C'est comme ça que nous commençons la vie chrétienne. Mais au lieu d'avoir cette relation verticale, elle devient déviée vers quelqu'un d'autre. On commence à penser, qu'est-ce que lui pense de moi? Ou est-ce que je suis approuvé par eux, plutôt que simplement par Dieu, mon Père? Vous avez vu cela, peut-être ce phénomène? On parle aujourd'hui des influences. Les influenceurs. Ce n'est pas les influenceurs sur les réseaux sociaux, mais de ceux qui nous influencent pour en fait commencer à penser à ce que eux pensent de nous, plutôt que ce que Dieu pense réellement de nous. Je vais vous donner quelques exemples parce que la forme de cette déviation est un peu différente si on est jeune ou moins jeune. Quand on est jeune, imaginons voilà, Samuel, il se convertit à 20 ans, il devient chrétien, il sent sa liberté, mais il veut vraiment faire plaisir au pasteur de son église. Et le pasteur lui dit, tu sais Samuel, c'est bien que tu sois chrétien, mais tu sais, pour être vraiment bien, il faudrait que tu lises tel auteur. Il a écrit beaucoup de livres, c'est des livres géniaux, il faut lire ces livres-là. Alors Samuel commence à lire cela. Et puis le pasteur lui dit, mais Samuel, tu devrais aller à cette conférence. Là, tu vas recevoir une bénédiction extraordinaire si tu fais partie de cette conférence-là. Ou alors, il faudrait aimer ce type de musique. Cette musique, elle est particulièrement dévouée au Seigneur. Écoute cela. Pense à ce que cela devienne ton habitude. Et donc, Samuel, au lieu de penser « qu'est-ce que Dieu veut de moi ?», il va commencer à de plus en plus faire ce que le pasteur veut. Il va commencer à vivre sa vie chrétienne pour être validé par lui, que ce soit le pasteur ou un autre leader chrétien, bien entendu. On fait des grands efforts parce qu'on est jeune et on veut bien faire. Ça peut être très coûteux, ça peut prendre beaucoup de notre temps. Mais finalement, on se rend compte qu'on n'est pas vraiment en train de vivre pour Christ. On veut juste être accepté. J'ai vu des jeunes hommes s'engager dans l'école biblique, des études bibliques sérieuses, simplement parce qu'ils voulaient être acceptables. Pas pour vraiment connaître Dieu ou connaître la parole, mais pour être acceptables dans les yeux des autres. Comment résister à cette influence? Et puis quand on est moins jeune, je pense à, par exemple, Bertrand, qui a une théologie chrétienne évangélique, mais il apprend que ses croyances personnelles gênent un petit peu son entourage. Pour lui, ce n'est pas intéressant de plaire au pasteur, mais il constate qu'il est en porte-à-faux avec ce que croit sa belle-famille, qui est catholique. Ou pour ne pas vexer ses collègues qui ont d'autres points de vue sur Dieu, il va en fait se taire, ou taire certaines de ses convictions, parce qu'il préfère ne pas en parler pour que eux soient heureux avec lui, que eux soient contents avec lui. Ça devient la priorité dans sa vie. Vous voyez? Donc il cherchera à plaire aux autres et à changer ses croyances, ou à taire ses croyances, pour être accepté comme un gars bien, quelqu'un de noble, quelqu'un d'acceptable dans la société d'aujourd'hui. Vous voyez? Donc on est influencé d'une manière ou d'une autre, pour ne pas vraiment vivre pour le plaisir de Dieu, mais de penser que la validation des autres compte. Comment pouvons-nous être libres des influenceurs? C'est un peu notre thème aujourd'hui, affranchi des influenceurs. Un peu de levain fait lever toute la pâte, dit Galates chapitre 5, mais on va commencer en regardant Galates chapitre 1, verset 10, parce que Paul, en fait, est un bon exemple. Celui qui a écrit cette lettre aux chrétiens qu'il connaissait, il avait fait un choix. Il avait décidé que pour lui, ce qui comptait, c'était de plaire à Dieu et pas de plaire aux hommes. C'est le choix que nous devons tous faire également. Chapitre 1, verset 10. Maintenant, est-ce la faveur des hommes que je recherche ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Voilà le choix auquel nous allons revenir aujourd'hui au chapitre 5. Nous entrons maintenant dans une nouvelle partie du livre. Il a passé les deux premiers chapitres. Paul a prouvé qu'il était une autorité spirituelle authentique, valable. Il a dit, j'ai été à Jérusalem, j'ai rencontré ceux qui sont des leaders là-bas, et ce n'était pas pour avoir leur validation, mais c'est pour dire, on prêche la même chose, n'est-ce pas? On est d'accord? Sa foi, son évangile, c'est le vrai évangile, et c'est le même qu'il prêche à Jérusalem. Paul a même dû parfois reprendre Pierre, un des grands leaders de l'Église, en disant, non Pierre, ce que tu fais n'est pas bien. Ensuite, au chapitre 3 et 4, il a argumenté à partir de la Genèse, donc la toute première partie de la Bible, que le salut par la foi seule sauve. La foi seule sauve. Et c'est Abraham qui l'a donné comme exemple. La semaine passée, nous avons entendu parler de Sarah et Abraham et leur foi qui était celle qui sauve et qui leur a apporté la liberté. Mais aujourd'hui, nous commençons la dernière partie du livre, de la lettre, où il veut vraiment nous montrer comment conserver notre liberté. Si nous sommes libres en Christ, par la foi en Jésus-Christ, comment pouvons-nous conserver notre liberté? Et comment faire face à ceux qui voudraient nous faire changer notre façon de vivre? C'est ça la question à laquelle il répond. Galates chapitre 5. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté, et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte d'un esclavage. Moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira à rien. Et j'affirme encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de mettre en pratique la loi tout entière. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez à être considérés comme justes dans le cadre de la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Nous, c'est de la foi et par l'esprit que nous attendons la justice espérée. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais seulement la foi qui agit à travers l'amour. Vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Un peu de levain fait lever toute la pâte. J'ai confiance dans le Seigneur qu'en ce qui vous concerne, vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en subira la condamnation. Quant à moi, frères et sœurs, pourquoi suis-je encore persécuté si je prêche encore la circoncision? Le scandale de la croix est alors supprimé. Puissent-ils même se castrer ceux qui jettent le trouble parmi vous? Vu que nous avons la liberté, nous devons tenir ferme. Ce que les Galates, ne faisaient pas. Paul veut les encourager. Tenez ferme dans la liberté que vous avez. C'est chercher à faire des efforts pour être approuvé par les autres. Ce serait en fait devenir à nouveau esclave. Et bien sûr, ce n'est pas ça que Dieu veut pour nous. On va regarder ces quelques phrases selon deux parties. La première partie, ça va être tout ou rien. Et puis après, on va parler des influences. Tout ou rien. Premier verset. Tout avec l'esprit ou rien avec la loi. Tout de l'esprit ou prendre un peu de loi et devoir faire toute la loi. Qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez garder la foi mais ajouter un petit peu plus? Non, ça n'ira pas. On ne peut pas ajouter nos œuvres comme moyen pour nous justifier. Si on fait ça, si on compte avec un peu de loi, un petit peu plus, en fait, on aura trois problèmes. Regardez les versets. D'abord, il dit, si vous faites ça, Christ ne vous servira à rien. Verset 2 est très clair, c'est Christ, tout, ou alors rien de Christ. La circoncision, ça, Ça peut être quelque chose auquel on ne pense pas, à laquelle on ne pense pas. Mais il y a d'autres choses qu'on pourrait mettre en avant, n'est-ce pas? Et si on vous demande comment savez-vous que vous êtes quelqu'un qui est en ordre avec Dieu, et que votre réponse c'est je crois en Christ et j'ai. Alors tout ce que vous ajoutez là, toutes les autres choses, ben, ça montre qu'en fait vous êtes en train d'ajouter à l'œuvre de Christ. Alors, Christ ne vous sert à rien. Christ doit être tout et que Christ. Le deuxième problème, c'est que si vous commencez par la circoncision, eh bien finalement, vous devez obéir toute la loi. Verset 3. La circoncision, c'est une chose. Et on peut dire, voilà, on a fait ça, c'est réglé. Mais non, il dit, si vous faites ça, alors vous êtes en train de vous mettre sous le régime de la loi et vous devez obéir à tout le reste. Et ce n'est pas possible d'obéir à toute la loi. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire ça? Ce serait une grosse, grosse erreur. Pour illustrer cela, pensez à lorsque vous êtes dans un hôtel, vous logez à l'hôtel. Vous pouvez aller où vous voulez, n'est-ce pas? Vous pouvez entrer quand vous voulez, sortir quand vous voulez, faire ce que vous voulez. Vous logez là, vous êtes libre. Mais si vous enfilez le costume d'un employé de l'hôtel, qu'est-ce qui va se passer? On va vous dire, hé, toi, va servir à la cuisine, ou va ranger les chambres, ou il faut passer l'aspirateur dans le couloir. Tu n'as fait qu'un petit geste, tu as décidé de mettre le costume de l'employé, bah, tu vas être traité comme un employé et devoir faire toutes les obligations d'un employé de l'hôtel. Et c'est ce qu'il est en train de dire. Si vous commencez à vivre comme si vous étiez circoncis sous la loi, en fait, vous devez obéir à toute la loi. Est-ce que c'est ça ce que vous voulez? Bien entendu, non. Mais troisièmement, il met en avant que la loi sépare de Christ. Vous ne serez plus sous le régime de la grâce, verset 4. Ils devaient continuer comme ils ont commencé, en croyant en Christ, en se reposant sur Christ et en mettant leur foi uniquement en Christ. Si on ajoute à notre foi des œuvres, on produit un légalisme qui est inacceptable, qui met un obstacle entre Christ et nous. Bien sûr, lorsqu'il dit cela, il n'est pas en train de dire qu'ils perdent leur salut. La Bible ne parle pas de déjustification, il parle simplement d'être justifié. Donc une fois qu'on est justifié, on est justifié pour toujours. Mais quand il dit on est déchu de la grâce, c'est comme si on voulait sortir du sphère de la grâce, de l'influence de la grâce, de la liberté de la grâce. Et il dit ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est inutile d'écouter ceux qui ne sont pas justifiés pour savoir comment être justifié. C'est comme si vous avez un don particulier pour la pâtisserie. Moi, je n'ai pas ce don. Vous avez un don particulier pour la pâtisserie. Vous savez faire d'excellentes pâtisseries. Et vous allez écouter mon conseil. Moi, je vais venir vous dire, ah non, mais il ne faut pas faire comme ça. Moi qui fais toujours des tartes brûlées, où j'oublie de mettre des œufs dans le gâteau, je ne sais pas, je risque de faire plein d'erreurs. Vous n'allez pas m'écouter. Si vous réussissez, n'écoutez pas ceux qui échouent. C'est ce qu'il est en train de dire. N'écoutez pas ceux qui ne savent pas être justifiés parce que vous êtes déjà justifiés. Et alors après avoir dressé le danger dans cette idée d'ajouter la circoncision ou un autre acte d'obéissance à notre foi pour être justifié, il va mettre en avant le positif. Regardez le verset 5. En fait, vous avez tout avec l'Esprit. Il dit au verset 5, c'est de la foi et par l'Esprit que nous attendons la justice espérée. Par la foi, la justice de Dieu, être juste devant Dieu, c'est ce que nous espérons, n'est-ce pas? Et nous avons cela. Nous l'avons immédiatement lorsque nous mettons notre confiance en Christ, nous sommes juste devant Dieu, et nous l'avons de manière pleine lorsque l'Esprit aura continué à travailler en nous pour nous rendre juste et profitable et fructueux, et donc on peut être tout à fait tranquille par rapport à ça. Ça va se produire. Nous sommes justes et nous serons justes. Mais nous ne mettons pas notre confiance en nous-mêmes. Nous disons plutôt comme ce chant, « Rien ne peut sauver mon âme ». Rien que le sang de Jésus que nous avons chanté la semaine passée. Alors nous pouvons vivre la tranquillité de ceux qui savent déjà aujourd'hui le verdict final de notre vie. Lorsque nous mettons notre foi en Christ, il n'y a plus en fait de doute. Est-ce que je vais être sauvé ou pas? On sait déjà que le dernier jour, Dieu va dire, je regardais ce que Jésus a fait, il est mort pour toi à la croix, il était pleinement obéissant, ça compte pour toi, et donc tu es juste. Tout ce qu'il faut faire, c'est mettre notre foi en lui. Par la foi, nous attendons la justice espérée. Par contre, la circoncision n'est pas un obstacle, verset 6, et l'incirconcision, le fait de ne pas être circoncis, n'est pas un avantage. Finalement, ce n'est rien. Que tu le sois ou pas, ce n'est pas un obstacle, ce n'est pas un avantage, ça ne fait pas de différence. Tout ce qui compte, il dit, c'est la foi qui agit à travers l'amour. Vous voyez le portrait positif qu'il est en train de peindre là du chrétien? On connaît notre verdict final, la justice. On a la foi aujourd'hui et la foi s'exprime par l'amour. Bien sûr, l'amour pour Dieu, mais aussi l'amour les uns envers les autres. Et c'est un peu sur ça qu'il va parler, ce qu'on va voir la semaine prochaine. Comment les œuvres découlent de notre foi. Vous savez, Dieu n'est pas devenu indifférent. Dieu n'a pas dit, bon voilà, du moment que vous avez la foi, c'est bon. Bien sûr, Dieu veut que nous ayons une vie remplie d'amour, l'amour pour lui et l'amour pour les autres. Et d'ailleurs, si tu as la foi sans l'amour, parce que vous voyez que la foi et l'amour agissent ensemble, verset 6, si tu as la foi sans l'amour, je me demanderais, est-ce que tu as vraiment compris ce que c'est la vie chrétienne? Dire oui, je crois en Christ et à la bonne doctrine, mais je n'ai pas d'amour pour les autres. Ça montre qu'on n'a pas vraiment été changé dans notre cœur. Par contre, si tu dis, moi j'ai beaucoup d'amour pour les gens, je n'ai pas la foi, je dirais, mais tu n'es pas vraiment chrétien alors. Parce que la foi est essentielle pour croire et pour être chrétien. Alors voici ce que nous pouvons faire. Si nous avons saisi le tout ou rien, nous avons tout avec l'esprit, nous n'avons besoin de rien d'autre que Christ. Nous ne voulons pas suivre toute la loi ou même un peu de la loi, nous ne voulons rien prendre de la loi pour nous justifier. Voici ce que nous pouvons faire. Trois pistes. D'abord, il est important de méditer le tout que nous avons en Jésus-Christ, que son œuvre est accomplie. Il y a des chants que nous pouvons écouter qui nous aident à bien retenir cela, à le méditer, à nous réjouir intérieurement du fait que ce que Christ a fait est parfait, c'est accompli. Mais si tu ne connais pas des chants qui parlent de cela, ben c'est bien aussi de pouvoir prendre une lettre comme Galates ou la lettre aux Éphésiens, et de lire cela en nous disant, qu'est-ce que la croix nous a apporté? Quel est le tout que j'ai reçu en Christ? Pour nous rendre compte, je ne pourrais pas avoir plus que ce que j'ai par la foi en Jésus. Mais une deuxième piste, et c'est important, c'est que nous devons nous repentir, non seulement de nos actes, mais de nos attitudes. Alors parfois nous pensons, voilà, est-ce que j'ai péché cette semaine, j'ai fait ça ou ça ou ça ou ça. Mais on doit aussi penser, quelle est mon attitude de cœur? Est-ce que je cherche réellement à plaire à Dieu dans ma vie? Ou est-ce que je cherche à plaire à quelqu'un d'autre? Est-ce que j'ai cru que finalement je devais faire ça et ça et ça pour être accepté par Dieu? Ou est-ce que je tiens encore à la vérité que je n'ai rien pour me recommander devant Dieu? Je suis toujours simplement un pécheur sauvé par la grâce. Et puis, la troisième piste, c'est que nous devons apprendre à aimer. Nous devons apprendre à aimer les autres chrétiens. Au verset 13, c'est un spoiler, c'est pour la semaine prochaine, hein, mais verset 13, il dit « Soyez par amour serviteurs les uns des autres. » Par la foi, voyez-vous, nous sommes associés à d'autres croyants. Nous ne sommes pas comme des consommateurs dans un restaurant. Nous allons en disant, voilà, j'aimerais ça et ça et ça, j'aimerais un message, des chants en entrée, et puis un message en plat principal, et puis des prières pour le dessert. Merci beaucoup, j'ai tout reçu, et puis je m'en vais. Nous sommes une équipe, nous sommes une famille, nous sommes censés être proches les uns des autres. Et nous devons apprendre donc à venir comme des serviteurs, servantes à l'Église, par amour les uns pour les autres. Quelle est votre façon d'aimer? Quelle est votre façon de servir? Est-ce que vous venez en consommateur, je suis là à table, je reçois tout ce que je veux, ou est-ce que vous êtes là en serveur Je suis là pour servir dans le restaurant, pour que les uns et les autres soient nourris et encouragés. Le tout ou rien, il y a des retombées pratiques. Et nous devons commencer maintenant dans cette dernière partie de la lettre à penser vraiment à notre vie et notre mode de vie. Mais la deuxième partie du texte que nous venons de lire parle d'une mauvaise influence. Il va vraiment se focaliser sur cela, encore une fois, 7 à 12. Et c'est en fait important pour nous de saisir comment nous pouvons être malheureusement influencés par les autres. Alors il y a différentes manières de décrire ça. J'ai essayé de décrire avec des illustrations au début. Mais ici, il va utiliser deux images différentes, une du sport et une de la cuisine. L'image sportive, c'est que vous couriez bien. Et qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? C'est l'idée de la course de la foi. N'oubliez pas que les Galates, c'était à l'époque des Jeux Olympiques déjà. Et ils connaissaient cela. Et quelqu'un peut peut-être couper la route ou peut-être dévier la course carrément dans une autre direction. Et donc au lieu d'aller là où on devait aller, on est en train de dévier sa course. C'est ce qui s'est passé. Lorsque nous courons la vie chrétienne, évidemment ce n'est pas pour devenir chrétien. C'est comme lorsqu'on est citoyen d'un pays. Vous ne pouvez pas représenter la Belgique à moins que vous soyez citoyen belge. On devient d'abord citoyen et puis on court la course qui nous est proposée. Donc ces gens-là savaient aussi qu'ils devaient être citoyens pour pouvoir courir, citoyens d'une ville. Et nous sommes citoyens de la Jérusalem céleste. Nous courons parce que nous sommes chrétiens et pas pour devenir chrétiens. Mais en tout cas, on court et on doit rester sur la ligne droite. Nous avons commencé en disant « je veux plaire à Christ ». C'est là la ligne d'arrivée, je veux arriver là, plaire à Christ. L'autre image qu'il utilise pour montrer la mauvaise influence, c'est la cuisine. Et la cuisine, c'est le levain. Il y a un peu de levain, fait lever toute la pâte. Vous avez remarqué que lorsque vous faites du pain, il ne faut pas beaucoup de levain, beaucoup de farine. Mais un tout petit peu de levain fait lever tout le pain lorsque vous êtes en train de le laisser là. Ça a une influence démesurée. Et de même, même s'ils étaient peu nombreux et que leur influence, la base, leur enseignement était petit, ceux qui enseignaient par rapport au légalisme avaient une grande influence. Commençaient à influencer ces chrétiens galates que Paul connaissait et il avait peur pour eux. Ils ont été influencés. Et il dit, cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Dieu vous a appelé à autre chose. Alors c'est autre chose que nous devons vivre et ne pas nous laisser influencer par eux. Ils ont été troublés. Je pense que les chrétiens sont en train de se dire, mais peut-être qu'on n'a pas fait assez. Peut-être que c'était un peu trop facile juste de croire en Christ et d'être pardonné. Peut-être qu'on peut faire autre chose pour être vraiment acceptable par Dieu. Et dans ce milieu assez troublé, les influenceurs des légalistes disaient, vous savez, Paul prêchait aussi la circoncision. Ce n'était pas vrai. Mais il disait, mais Paul, il n'est pas contre, il est circoncis lui-même. C'était un juif d'origine. En plus, on entend dire que Timothée, qui était un collaborateur de Paul, Paul l'avait fait circoncire en tant qu'adulte parce qu'il n'avait jamais été circoncis. Eh bien, vous voyez bien, il est en train de prêcher la circoncision. Quelle réputation, n'est-ce pas? Lorsqu'on quitte un lieu, on perd toute influence sur sa réputation. Les gens peuvent dire ce qu'on veut. Et donc, parce que Paul n'était pas là pour se défendre, les gens répondaient des choses autour de l'Église par rapport à Paul. Et Paul dit, non, je ne suis pas en train de prêcher la circoncision. Moi, je suis persécuté parce que je prêche le contraire. Mais ça montre à quel point ils étaient prêts à faire de grands efforts pour être bien vus, pour être enfin validés par les leaders sur place. Le même problème qui nous afflige lorsque nous voulons plaire aux leaders chrétien, plutôt que de plaire à Christ. Alors c'est bien d'avoir des modèles, c'est bien d'avoir des bergers, des pasteurs. Je ne suis pas en train de nous critiquer, mais je suis simplement en train de dire qu'il faut veiller à ce que l'influence vienne de celui qui nous appelle, Seigneur Jésus qui nous parle et qui nous a adressé sa parole, plutôt qu'une autre chose qui est imposée, exagérée ou ajoutée à la Bible. Parce que lorsque nous nous détournons de la Bible, regardez verset 10, il y a non seulement des troubles dans l'Église, mais une condamnation pour ceux qui ont apporté ce message-là. Ça, ce sera la conséquence finale de ce cet enseignement. Alors il y a une différence, il me semble, entre ceux qui croient, en tant que croyants, qui sont influencés et qui ne sont pas perdus, et ceux qui enseignent des mensonges, qui seront jugés sévèrement. Chapitre 1, par exemple, il dit, si quelqu'un annonce un autre évangile, qu'il soit condamné. Mais il ne dit pas ça pour les Galates, vous êtes condamnés. Il dit plutôt, faites attention, remettez-vous, redressez-vous, pour ne pas être comme eux. Alors de temps en temps, il y a des légalistes qui sont chrétiens et qui sont sauvés. Nous aussi, si nous sommes légalistes, nous avons un penchant légaliste, nous pensons qu'il faut faire ça et ça et ça, et nous sommes toujours peut-être sous un joug de culpabilité, nous pouvons quand même être sauvés parce que notre foi est en Christ. Mais nous devons faire attention à cette mauvaise influence et nous devons éviter cette mauvaise influence. Qu'est-ce qu'on peut faire? Si vous êtes comme Samuel, ce jeune que j'évoquais qui est influencé d'une manière mauvaise pour essayer d'ajouter des choses, je pense qu'il faut revoir nos attentes. Dire, je pense que je devrais faire ça et ça et ça. Est-ce que c'est juste? Est-ce que la Bible me demande de faire cela? Ou c'est simplement l'idée d'un leader, d'un auteur, d'un conférencier, d'un pasteur, etc. Est-ce que cette attente est biblique ou est-ce que c'est ajouté à la Bible? Mais aussi, je pense que c'est nécessaire pour nous, chacun individuellement, de se répéter, je suis justifié, même si je suis désapprouvé par les autres. Si les autres désapprouvent de moi, et bien sûr des gens désapprouvaient de Paul aussi, on peut se dire, je suis justifié. Toutes les vérités que nous avons entendues pendant plusieurs semaines, on peut les répéter intérieurement. Non, je suis justifié. J'ai peut-être pas lu ce livre, eu cette expérience, chanté ces chants, visité cette conférence, regardé cette vidéo sur YouTube sur comment vivre sa foi victorieuse. J'ai peut-être pas eu toutes ces expériences chrétiennes que les autres ont eues, mais je suis justifié. Je suis justifié. Et je suis prêt, alors, pour l'éternité. Paul termine en disant qu'il est tellement fâché qu'il voudrait que les gens se coupent au lieu d'insister sur la coupure des autres, qu'ils se castrent eux-mêmes. C'est assez dramatique la façon dont il s'exprime au verset 12. Mais ça montre à quel point il est fâché contre les faux enseignants. Mais il évoque deux choses. Je veux terminer par ces deux choses qu'il dit qu'il accompagne la proclamation de la justification par la foi seule. Si vous voulez annoncer aujourd'hui que Christ seul sauve, alors vous allez faire face à ces deux choses. D'abord, la persécution. Il dit qu'il est persécuté. Et c'est normal parce que la fausse religion s'oppose toujours à la croix et à la foi. N'oubliez pas que les pires opposants de Jésus n'étaient pas les pécheurs notoires de la ville. C'étaient les gens religieux, les plus religieux, qui étaient contre lui. La persécution de ceux qui disent oh, « c'est trop facile » de mettre votre foi en Christ, mais qui ressentent aussi que dans l'évangile, il y a une menace pour la religion. Parce que la religion dit non, il faut faire ça et ça et ça et ça, comme ça vous serez juste. Et nous disons non, rien de tout cela, je veux tout avec Christ, je mets ma confiance en Christ et c'est réglé. Ça déstabilise les religions, ça attire leur hostilité, leur persécution. Et si vous êtes prêts à défendre la justification par la foi seule, alors vous allez certainement faire face à de l'opposition. Être prêt à parler de l'évangile à des gens qui n'y croient pas va vous attirer des ennuis. Il faut être prêt à subir la ligne de souffrance, à franchir la ligne de souffrance, comme dit Rico Tice dans son livre sur l'évangélisation. Mais l'autre chose qui accompagne cette proclamation, c'est le scandale de la croix. Le scandale de la croix, verset 11. Vous savez, le scandale de la croix, c'est quoi? C'est que par Christ, tout est réglé et qu'on ne peut rien faire pour être juste par nous-mêmes. On ne peut rien faire pour être juste. Ça annule tout. Prêcher la circoncision revient à compter sur nos œuvres et sur nous-mêmes, mais plutôt il est en train de dire non, on veut continuer à prêcher Jésus seul, la croix seule, la foi seule. Est-ce que vous êtes prêt à dire cela aux autres? Est-ce que vous êtes prêt à tenir ferme dans la liberté, tenir ferme sur l'évangile? Ou est-ce que vous allez être influencé? Il y a beaucoup de mauvaises influences aujourd'hui. Alors je termine simplement en posant la question, pour qui voulez-vous vivre? Vous voulez vivre pour plaire à Dieu? Vous voulez vivre pour plaire, pour Dieu bien sûr, mais pour plaire aux autres qui vous disent comment ils peuvent, vous pouvez plaire à Dieu. Si vous essayez de plaire aux autres, vous serez toujours troublé. Vous serez toujours craintif de n'avoir pas fait assez, de ne pas avoir assez d'approbation, parce qu'évidemment, les hommes ne peuvent que vous approuver un petit peu. Ce n'est pas leur opinion qui compte finalement. Vous devez plutôt dire, non, je suis déjà libre, je suis déjà justifié, et vous réjouir de cela. J'espère que vous retiendrez cela et que vous pourrez être résistant à ceux qui vous influencent dans la mauvaise direction. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions pour la liberté que nous avons en Christ. Nous sommes reconnaissants que nous sommes arrivés à ce stade où nous comprenons qu'il y a un enjeu par rapport à l'Évangile, mais aussi par rapport à notre vie de chrétien. Alors s'il te plaît, Seigneur, que nous soyons rigoureux nous-mêmes avec la doctrine, la vérité telle que tu nous l'as transmise, à ne pas enlever de la vérité, à ne pas ajouter à la vérité, et à ne pas non plus nous dévier de la vraie foi qui met toute notre confiance en Christ et son œuvre à la croix. Merci que Jésus a tout accompli et que nous pouvons nous réjouir de cela. Merci que rien ne peut sauver notre âme à part ce qu'il a fait, parce que c'est une bonne nouvelle qui nous décharge complètement de cette obligation de nous justifier. Seigneur, aide-nous aussi à comprendre les conséquences de cela par rapport à notre amour du prochain, notre implication dans la vie chrétienne, à être motivé par ton esprit pour avoir la foi, mais pour avoir l'amour que tu veux voir produit en nous. Au nom de Jésus. Amen. On va avoir notre dernier chant ensemble. Je vous invite à vous lever et pendant...